Nous avons un chemin commun puisque nous avons été en Normandie pendant un temps ensemble et puis on se connaît et je dois dire que j'ai pour lui une très vive affection, vraie, profonde et puis on s'appelle souvent pour s'encourager mutuellement et son appui est aussi nécessaire à mon service d'avoir un frère aussi qui se tient à mes côtés et qui a aussi beaucoup de paroles de sagesse pour accompagner l'autre. Et il a été pasteur alors. Dans plusieurs églises, il va peut-être se présenter, vous dire tout simplement son parcours de vie.
Bonjour.
Voilà.
Merci. On se connaît depuis tellement d'années. Tant d'années. Avec mon épouse, on était en voiture pour venir jusqu'à chez vous, en tout cas ici. Et on calculait un peu, on regardait 30, 31 ans. On se connaît. Ça fait une paire, hein? Ça fait une paire d'années. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Il y a quelques années aussi, je suis venu ici, mais ce local était désaffecté. Il n'était pas du tout comme ça. Et là, je me réjouis de voir ce beau local retapé, restauré, et de vous retrouver, en tout cas, dans ce lieu vraiment. Ah non, non, non. Tu ne m'avais pas encore invité. Ou là, peut-être que tu m'as invité, puis que je t'ai dit non. Voilà, en tout cas. C'est une joie d'être avec vous et oui, nous avons senti la présence du Seigneur et nous la sentons aussi là, bien sûr, tout au long de ce temps de rencontre. Merci à vous pour aussi vos prières parce que c'est un temps de retraite. C'est vrai que j'ai été presque 10 années maintenant sur Gayfontaine, une église, il a fallu aussi batailler, combattre avec mon épouse. Mais on a été 10 ans, on a persévéré, et puis c'est vrai que je ne reprends pas de charge d'église. Je me retrouve à la retraite. Alors la retraite, c'est un mot qu'on galvaude, hein, bien sûr, mais en tout cas dans ma tête, je ne me sens pas du tout à la retraite, quoi. Je sens que voilà, le Seigneur veut aussi nous conduire aussi dans d'autres dimensions, d'autres vécus, d'autres expériences. C'est lui qui le fera, avec la grâce qu'il nous accordera aussi pour le faire et la force qu'il nous donnera. Mais en tout cas, on lui fait confiance. Nous lui faisons confiance. Merci en tout cas pour vos prières pour la suite à venir. Et je sais que l'église de Kevin est, en tout cas, nous sommes sur vos cœurs. J'aimerais vous parler d'un homme ce matin, un homme de Dieu. Oh, il y en a des hommes de Dieu dans la parole, dans la Bible, n'est-ce pas? Mais un homme qui me touche tout particulièrement, c'est l'histoire, en tout cas la vie d'Abraham. Ce patriarche, vous savez. Cet homme qui, eh bien, dans ce contenu, en tout cas l'histoire de cet homme, ça commence quelque part. Ça commence par un appel de Dieu. Parce que Dieu fait entendre sa voix à Abraham. Et ce n'est pas Abraham encore, hein, père d'une multitude, mais Abraham, depuis son départ. Et ce n'est pas le passage que nous allons lire, mais peut-être vous commencez à introduire ce moment par ce départ et cet appel de Dieu concernant Abraham. C'est le chapitre 12, verset 1 qui dit que Dieu va lui demander à Abraham de partir de son pays, de sa patrie, de la maison de son père, dans le pays que Dieu lui montrerait, et qu'il ferait de lui une grande nation, et qu'il le bénirait. Et depuis ce moment, Abraham, en tout cas, bien sûr, a répondu à cet appel, et il a commencé à marcher avec Dieu. On y va jusque dans ce pays de Canaan, où Dieu va lui révéler lui-même son intention, sa promesse de le bénir, et aussi de faire de lui une multitude de nations. Et Abraham a progressé dans cette marche spirituelle, dans cette marche avec Dieu. Il a entendu, et c'est ce qui est important pour nous aussi, enfants de Dieu et chrétiens, peut-être même depuis de longues dates, d'entendre encore aujourd'hui la voix de Dieu. Amen. Est-ce que nous entendons la voix de Dieu? Oh, ne pas une voix comme vous l'entendez aujourd'hui de ma bouche, hein, vous entendez ma voix. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On ne prend pas toujours garde. Et en tout cas, pour Abraham, Il a pris garde à la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu. Et il ne l'a pas seulement entendu, mais il a entendu une invitation, un appel à le suivre et à marcher pour lui. Et c'est au travers de ce départ, et de, en tout cas de son obéissance, que Dieu pourra accomplir sa promesse, que Dieu pourra accomplir tout ce qu'il avait prévu d'avance. Parce que je pense que nous le savons, Dieu a prévu bien des choses d'avance pour aussi chacun de nous. Amen. Je vais mettre... Voilà, ça va être plus facile. Alors, la question simplement, c'est, avons-nous répondu à son appel ? Et je pense que nous, ce que nous avons entendu aussi dans le déroulement de ce culte, dans ce temps aussi de louange où Dieu s'est révélé, a fait entendre aussi sa voix par l'intermédiaire des uns et des autres, comme une invitation de Dieu à y répondre, à le rencontrer, et à vivre une rencontre, une expérience, un attouchement de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, qui va avoir des conséquences de bénédiction aussi dans nos vies, mais aussi dans notre entourage et dans notre environnement. Parce que être chrétien, c'est cela, n'est-ce pas ? C'est être touché par la grâce de Dieu, par Dieu lui-même, par cet amour incommensurable, inconditionnel, qui, bien sûr, touche nos cœurs, mais qui nous amène aussi à toucher d'autres cœurs. Parce que notre vie a été remplie et touchée par l'amour de Dieu. Amen. Alors, c'est ce que Dieu dira à un moment donné aussi à Abraham. Tu seras une source de bénédiction. La réponse à l'appel de Dieu va faire aussi d'Abraham un homme qui va être aussi en bénédiction aussi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous sommes aujourd'hui, mes amis, nous l'Église, nous les croyants, au bénéfice de cette grâce et de cette obéissance aussi dans la foi d'Abraham. Alors on va lire ensemble, si vous voulez bien, dans le livre de la Genèse au chapitre 18, versets 17 à 20. J'ai pris ces quelques versets, même si les versets précédents ont toute leur importance, nous allons revenir bien sûr dessus. Chapitre 18 de la Genèse au verset 17 à 20. Alors l'Éternel dit, encore une fois, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai, dites-le avec moi, ouais. Car je l'ai choisi. » afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Trois points de suspension. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la suite. Mais je voudrais surtout insister sur ces paroles que nous venons de lire, où dans les versets précédents, eh bien, les anges aussi sont venus, au travers des hommes bien sûr, mais on pense que c'était des anges qui sont venus annoncer à Abraham aussi la promesse qu'il aurait un fils avec sa femme Sarah. Et ce serait à la même époque que Sarah donc, eh bien, serait enceinte. Il nous a dit de Sarah d'ailleurs que lorsqu'elle a entendu cette nouvelle, alors qu'elle était très âgée, eh bien, elle a ri. Parce que nous rions aussi lorsque Dieu nous fait une promesse et que nous disons « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi ». Nous pouvons être aussi comme Sarah parce que nous sommes dans la même nature et que nous avons parfois quelques doutes à croire, ou en tout cas difficile à croire que Dieu peut accomplir encore sa promesse malgré toutes les années et que Dieu nous parle encore et qu'il veut encore nous conduire et nous bénir. Amen. Parce qu'ils étaient vieux, et que Sarah n'espérait plus avoir d'enfants. Près de 100 ans ou 99 ans pour Abraham. Est-ce que vraiment, dira Sarah, j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Versets 13 et 14 du chapitre 18. Et un de ces trois hommes va dire, mais y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Il faut un miracle, n'est-ce pas ? Croire que quelque chose va arriver de la part de Dieu, une promesse. Il n'y a pas d'âge, et ça c'est entre parenthèses, pour être toujours utile pour le Seigneur. Amen.
Amen.
N'est-ce pas ? Même la retraite, hein ? Le Seigneur ne regarde pas la retraite. Il ne regarde pas à l'âge, mais à nos possibilités aussi de pouvoir et de vouloir aussi le servir avec toute la force et toute la vigueur que le Seigneur lui-même pourra nous accorder pour le servir. Parce qu'il a encore des plans, parce qu'il a encore des projets, parce qu'il a encore un avenir aussi pour... je vais le dire comme ça, pour les retraités. Non, non. Pour tous ceux et celles qui, malgré les années passées, dans la foi et dans la marche avec le Seigneur, eh bien, veulent encore s'engager et se consacrer. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu va lui dire et qui va être, en fait, le résultat de cette communion intime avec Abraham ? Pourquoi Dieu lui parle de cette manière ? Dieu parle à Abraham et Dieu va lui dire, mais cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Je trouve ces paroles, non pas seulement très intéressantes, mais très importantes aussi pour nous. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? La révélation des projets de Dieu pour la vie d'Abraham. La révélation. Dieu révèle. Dieu veut révéler quelque chose à Abraham. Cacherai-je à Abraham ? La manière dont Dieu s'adresse à cet homme, c'est parce qu'il y a une relation. C'est parce qu'il y a une communion, parce qu'il y a une intimité. Il nous a dit d'Abraham qu'il est l'ami de Dieu. Dans d'autres textes, bien sûr, Ésaïe, par exemple, nous parle de l'amitié de Dieu, parce qu'il est aimé de Dieu. Il nous a parlé d'Abraham qu'il est l'ami de Dieu. La révélation des projets de Dieu. Dieu ne veut rien cacher à Abraham, parce qu'il y a cette communion intime, parce qu'il y a ce vis-à-vis. Et mes amis, ce matin, la question nous est posée à nous aussi. Suis-je en communion véritable avec le Seigneur ? Ai-je une relation intime avec lui ? Pour qu'au travers de cette relation, de cette communion, de ce temps que je peux avoir aussi, comme l'ami de Dieu, comme Abraham l'était, avoir la révélation de ce qu'il est lui-même. Non pas de ce qu'il veut accomplir simplement, mais de ce qu'il est lui-même. Dieu dans ma vie, ce qu'il est. Ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, la révélation. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Et c'est au travers de ces paroles que Abraham va apprendre aussi à connaître Dieu, non pas dans toute sa dimension, parce que connaître Dieu dans toute sa dimension, ça ne sera pas suffisant, même 99 ans ou 100 ans ne seront pas suffisants pour connaître profondément Dieu. La deuxième chose, c'est les conséquences. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Les conséquences de cette révélation. Les conséquences, c'est au travers de l'obéissance, de la foi. Abraham va obéir. Quant à la promesse de Dieu, quant à l'invitation de Dieu de marcher avec lui, eh bien, il y a les conséquences de notre obéissance, les conséquences de notre foi. Parce que nous obéissons, parce que nous acceptons, non pas seulement de croire, mais de nous mettre en action, eh bien, que la bénédiction de Dieu va aussi s'accomplir. Dieu va accomplir aussi sa promesse. Je crois, donc je vais vivre. Non pas ? Je ne vis pas et puis peut-être que je vais croire. Ou... Non, non, je crois et je vais vivre les choses que le Seigneur a préparées aussi pour ma vie, personnelle déjà. Les conséquences de cette révélation que je reçois de Dieu c'est par l'obéissance de la foi. Il y a des conséquences par rapport à notre obéissance. Et puis la troisième, c'est pourquoi, c'est le point important en fait, pourquoi Dieu se révèle? Pourquoi Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Pourquoi il lui révèle les choses et pourquoi? Et là, le verset 19 m'interpelle et m'a interpellé lorsque je méditais ce passage. Oh, c'est très facile, c'est pas compliqué à lire, mais ça m'a frappé. En tout cas, le Saint-Esprit est venu aussi m'ouvrir les yeux sur ce verset 19. Car je l'ai. Vous l'avez là. Car je l'ai choisi. Car je l'ai choisi. L'intention de Dieu, c'était de choisir Abraham dans le temps et dans le moment qu'il fallait de sa part. Choisir Abraham. Je l'ai choisi pour, et bien sûr, nous allons voir aussi la suite tout à l'heure. Car je l'ai choisi. Le choix de Dieu dans le moment présent. Nous avons été choisis. Et dans le mot en lui-même choisi, il y a d'autres mots, bien sûr, que nous pouvons aussi entendre. C'est l'élection. Nous avons été élus. Amen. Vous avez été élus avant la fondation du monde. Et avant cette fondation du monde, du ciel et de la terre, Dieu avait choisi Abraham. Dieu le voyait déjà dans son éternité. Dieu voyait un homme qui répondrait à l'appel, à la voix de Dieu. Et de toute éternité, Dieu nous voyait déjà et me voyait, nous voyait, vous voyait déjà dans son plan de toute éternité. Là où vous êtes assis, Dieu vous voit. Amen. Là où vous étiez hier, Dieu vous voyait. Dans le sein de votre mère, Dieu vous voyait déjà. Et il vous avait choisi. Il vous avait élu avant la fondation. Est-ce que ce n'est pas merveilleux, ça? C'est incompréhensible. Je le crois, Seigneur. Pour notre salut. Au travers de l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous, au travers de la croix qui a été dressée il y a 2000 ans, c'était le choix de Dieu, n'est-ce pas? Le choix de Dieu qu'un homme meure sur une croix, que le Fils de Dieu lui-même se donne entièrement, et non pas seulement un peu, mais entièrement sur cette croix pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et que par ce choix de Dieu, parce que Dieu le désire profondément pour chacun d'entre nous, que nous avons été choisis. Mais mes amis, répondons à cet appel. Répondons à ce choix de Dieu, parce qu'il n'y a une grande différence, je vais le dire comme ça, il y a une très grande différence entre le fait de vivre sa vie sans Dieu et le fait de vivre sa vie avec Dieu et de marcher avec lui. C'est là toute la différence. C'est ce que nous pouvons devenir ou ce que nous sommes devenus avec lui, alors que nous aurions pu être sans lui. Nous avons fait le choix aussi, peut-être aujourd'hui en tout cas, le choix de Dieu, le choix de le suivre et d'aller à la croix pour remettre aussi nos vies entre ses mains, nos péchés, comme nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Nous avons été choisis par Dieu pour vivre dans cette communion intime où nous entendons sa voix qui nous fait aussi, ou lui-même nous fait connaître aussi ses plans, ses projets. Paul priait pour l'église d'Éphèse, pour les chrétiens d'Éphèse. Il priait pour eux et il priait Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il illumine les yeux de leur cœur, pour qu'ils comprennent, qu'ils saisissent l'appel qu'ils avaient reçu de Dieu. La richesse de la gloire et de son héritage, quelque chose d'extraordinaire. Jésus-Christ est extraordinaire, nous l'avons chanté aussi tout à l'heure. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut que nous puissions aussi découvrir, ou peut-être redécouvrir dans notre marche avec lui. Je l'ai dit, Abraham était l'ami de Dieu. Chapitre 18, verset 32, après l'intercession d'Abraham, il nous a dit que l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Oh, je trouve cela tellement, tellement intime, tellement personnel. Cette relation personnelle, il parlait à Abraham. Je pense à Moïse qui parlait avec Dieu comme un homme parle à son ami. Cette relation, cette relation personnelle. Dans Ésaïe 41, verset 8, nous est dit que Dieu dit à Israël qu'il est de la race d'Abraham, son ami, ce patriarche, Abraham. David, le roi David, vous connaissez David qui a été aussi appelé par Dieu et qui a été choisi aussi par Dieu plutôt que ses frères, un homme selon le cœur de Dieu. Nous sommes nous-mêmes ce que nous sommes devant lui par pur choix de Dieu. Et nous avons répondu. Le choix d'un homme et le choix d'homme, bien sûr, et de femme. Et encore aujourd'hui, nous prions, bien sûr, pour que encore beaucoup, multitude d'hommes, de femmes puissent répondre à cet appel divin. Alléluia. Et que d'autres hommes et femmes puissent aussi se retrouver aussi dans cette famille, dans cette grande famille qu'est l'Église. Alléluia. Il y a un devenir en Dieu par cette élection. Dieu me voyait déjà, je l'ai dit tout à l'heure. Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. » Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Choisi pour, bien sûr, notre salut, choisi pour être établi dans son plan, dans ce monde, choisi pour aller, mais aussi choisi pour porter du fruit. Alléluia. Et le reste appartient à Dieu, bien sûr, mais dans la mesure où nous acceptons de remettre nos vies entre les mains de Dieu, eh bien, il va aussi accomplir sa volonté pleine et entière et faire de nous des hommes et des femmes, peut-être dont nous ignorons encore, peut-être la manière dont Dieu veut nous utiliser. Dieu veut se servir aussi de chacun de nous. Le verset 19, « Car je l'ai choisi », le choix de Dieu, « afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. » Son fils Isaac, Ismaël, de garder la voie de l'Éternel. Et vous avez bien sûr lu aussi ce verset comme moi, après lui. Il y a quelque chose après. Il y a quelque chose, il y a toujours en fait un avant, on est d'accord. Il y a un après, mais il y a aussi entre l'avant et l'après, il y a le pendant. Le moment présent, il y a le pendant, il y a le moment présent. Ce que nous sommes aujourd'hui dans le moment présent. Ce que nous devons être en Dieu, en Christ, dans le moment présent, pour transmettre quelque chose de la part de Dieu pour la génération à venir, ou pour les générations à venir. Et c'est important de transmettre les bonnes choses aussi à nos enfants. Amen. Surtout quand ils sont petits, déjà. Quand ils sont grands, on dit toujours, c'est un peu tard. Mais elle a toujours quand même des choses à leur transmettre, à leur partager, pendant le temps que Dieu nous accorde pour les générations à venir. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham n'a pas vu. Il a eu ce fils, Isaac. Abraham, à un moment donné aussi, est parti, est mort, est décédé. Il n'a pas vu la promesse, ou la pleine promesse s'accomplir, mais il a vu une partie de la promesse au travers d'Isaac, mais pas l'entière promesse que toutes les familles. Ou alors il aurait fallu qu'il soit immortel sur la terre. Nous ne verrons peut-être pas toujours les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, mais de croire que la promesse de Dieu s'accomplira. Alléluia. Le témoignage de la foi, le témoignage de l'Église dans le monde. J'ai posé la question à l'église de Gayfontaine, dont je ne suis plus le pasteur maintenant, mais pendant toutes ces années où cette église aussi qui devait témoigner aussi de sa foi dans ce quartier, dans cette commune, dans ces villages. Et j'ai souvent posé la question aux frères et sœurs aussi de l'église, qu'est-ce que les gens disent de nous, de l'église? Qu'est-ce que nous leur transmettons pour qu'à un moment donné, ça puisse produire un impact, quelque chose qui apporte une bénédiction aussi à notre entourage, à ceux qui nous entourent? Qu'est-ce que les gens disent de nous? Et peut-être la question vous est aussi posée ce matin. Qu'est-ce que les gens disent de vous, autour de vous, au travers de votre foi, au travers de votre vie personnelle? Qu'est-ce que les gens disent de vous? Comme Dieu disait à Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, Abraham devait transmettre un héritage, quelque chose pour les générations à venir. Amen. Un message à transmettre de par notre vie qui témoigne de l'amour de Dieu et de notre prochain. Pensez à Timothée, où Paul exhortait Timothée, qui avait reçu cette foi, et il dit à Timothée que sa mère avait aussi cette même foi sincère. Il y avait quelque chose au sein de la famille, en tout cas de Timothée, qui avait été transmis. Timothée avait reçu ce témoignage parce qu'au travers de sa famille, de sa mère, il y avait quelque chose de Dieu qui amenait Timothée aussi à répondre à l'appel de Dieu. Nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants, nos petits-enfants, pour qu'à un moment donné, au travers justement, non pas seulement de nos prières, certes, mais qu'au travers du témoignage aussi de notre vie personnelle, il y a quelque chose qui les amène à être touchés, à être saisis par l'amour de Dieu. C'est ma prière pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ça peut être la nôtre aussi. Seigneur, touche par ma vie. Qu'est-ce que je peux leur transmettre? Quelque chose qui vienne de toi, de ton amour et de ta grâce. Parce que la grâce de Dieu que nous avons reçue, bien sûr, de cet amour de Dieu, cette grâce qui surabonde sur le péché, eh bien, nous sommes nous-mêmes appelés à être témoins de cette grâce, à être témoins. Cette grâce imméritée, cette grâce que nous devons communiquer aussi aux autres. Là où le Saint-Esprit a pris sa place, là où le Saint-Esprit a fait sa demeure. Vous savez où il demeure, le Saint-Esprit? Comment? Dans les hommes, tu es sûr? Oui, Michel. Là où le Saint-Esprit a fait sa demeure, eh bien, il prend de ce que nous sommes, vase d'argile, vase de terre, où ce trésor qui est en nous doit être communiqué, partagé. Dieu veut prendre nos vies aussi entre ses mains, comme un vase d'argile fragile, faible. Et nous nous connaissons bien, n'est-ce pas ? Nous connaissons nos faiblesses et nos fragilités, notre humanité qui nous colle à la peau, notre chair qui nous colle à la peau. Mais merci Seigneur de nous faire la grâce d'habiter dans nos vies par le Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit, afin que nous soyons des canaux, que nous soyons des canaux de bénédiction pour les autres, que nous soyons porteurs de Dieu, porteurs de Dieu dans un monde qui désespère, dans un monde qui meurt, dans un monde qui souffre, dans un monde qui a mal, dans un monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous devons briller aussi, comme des flambeaux dans ce monde. Là où le Saint-Esprit a fait sa demeure, il prend nos vies entre ses mains pour accomplir ses plans dans les temps qu'il a fixés depuis le commencement. Car je l'ai choisi. Et vous pouvez le dire peut-être pour vous-même, car j'ai été choisi. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Je ne suis pas là par hasard. Je ne suis pas né par hasard. Je suis là dans le moment, en 2015, on est le combien aujourd'hui ? Le 12 juillet, je ne me rappelle même pas. La retraite, ça a du bon, mais des fois, les neurones ont du mal. Hein ? À 11h45, 47, voilà, hein ? Je ne suis pas là par hasard. Dieu m'a désiré dans ce moment présent pour accomplir sa volonté, comme au temps d'Abraham qu'il avait choisi dans ce moment présent. C'était le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu pour nous. Alléluia. C'est le temps de Dieu pour vous. C'est le temps de Dieu, je n'ai pas l'habitude de le dire comme ça. C'est le temps de Dieu pour toi, aujourd'hui, de l'accepter, de le recevoir, de vivre dans cette intensité de la communion avec lui, pour que tu marches et que vous marchiez avec lui dans son plan et qu'il accomplisse sa volonté. Abraham, le patriarche, le père de la foi, nous montre combien il est important dans le déroulement du plan de Dieu. Il a été important dans le déroulement du plan de Dieu. Abraham a marché, où il a fait des erreurs. Il a commis des erreurs. Je ne sais pas si j'aurais choisi Abraham, étant Dieu moi-même, en disant, mais non, si j'avais vu d'avance ce qu'Abraham aurait pu faire, non. Aurions-nous choisi les 12 apôtres ? Certainement pas non plus. Et pourtant, Jésus a passé toute la nuit pour prier, pour choisir les 12. Est-ce que vous auriez choisi Pierre ? Est-ce que vous auriez choisi Jacques et Jean ? Oui, ou Judas. Mais il les a choisis parce que Dieu avait un plan. Alléluia. Et ne regardons pas, bien sûr, à nos fragilités, à nos faiblesses, parce que nous allons nous arrêter très vite. Hein. Non, ce n'est pas possible. Mais non pas en fonction de ce que nous sommes, mais en fonction de ce que Dieu voit que nous sommes en lui. Alléluia. Alors cela nous amène à nous précipiter dans les bras de Dieu et à dire, Seigneur, ouais, forme-moi, transforme-moi et conduis-moi encore. Abraham a marché avec Dieu pour que les générations à venir, c'est-à-dire nous aujourd'hui, soyons au bénéfice de cette grâce et que nous avancions et marchions dans cette foi qui nous est communiquée. Dieu ne cache rien de sa volonté pour ses enfants. Dieu ne cache rien. Il y a des temps, bien sûr, de Dieu où on est un peu dans le brouillard, hein. Ça peut nous arriver, n'est-ce pas, Francine ? Oh, on est dans le brouillard. On ne sait pas trop où on en est. On cherche, on tâtonne. Et peut-être que je crois que Dieu parfois permet le brouillard, permet un épais brouillard pour que nous le recherchions davantage, que nous nous fixions davantage sur lui, sur cet objectif de cette relation, de fixer nos regards sur Jésus. Ouais. Les brouillards sont parfois permis pour que notre communion puisse être encore plus profonde. Dieu ne cache rien, il ne veut rien. Son désir, c'est de nous faire connaître ce qu'il est lui-même déjà. Mais ce qu'il veut aussi nous révéler aussi pour aujourd'hui, pour demain. Parce que j'ai été choisi pour transmettre aux générations à venir, pour que je communique aux autres la voix de l'Éternel et recevoir et vivre la grâce, et qu'ils reçoivent et vivent de la grâce de Dieu. Voilà ce court message que je voulais vous partager ce matin. Et je voulais surtout insister sur ce choix de Dieu. Alors j'aimerais vous inviter à la prière, pour que le Seigneur puisse encore eh bien, se réjouir aussi, lui-même, de ce que nous répondons à son invitation, à son appel. Seigneur, merci d'être là au milieu de nous, d'être là présent, au-delà, Seigneur, et infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que nous avons passé ensemble et ce temps, Seigneur, où tu as manifesté ta présence, Seigneur, en faisant entendre ta voix à nos cœurs. Merci pour ta parole, parce qu'elle est la vérité. Et parce qu'elle est la vérité, Seigneur, nous croyons qu'elle accomplira en nous, par ton Saint-Esprit, des fruits nouveaux. Parce que mon désir, et je prie ce matin pour cette église aussi de Kevin, pour que le désir de chacun, c'est que ta volonté s'accomplisse pleinement et entièrement. Et qu'il y ait de la joie dans le cœur de tes enfants, la joie de voir, Seigneur, que par ce choix que tu as fait des uns et des autres, Seigneur, de voir ta fidélité s'accomplir aussi dans la vie des uns et des autres. Ta promesse s'accomplir dans la vie des uns et des autres. Merci Seigneur de te glorifier pleinement. Et comme nous l'avons aussi entendu dans cette introduction ce matin, vraiment Seigneur, au-delà des limites de ces murs, qu'il y ait une croissance, qu'il y ait un élargissement, non pas seulement pour ce lieu, mais aussi pour nos vies personnelles, qu'il y ait Seigneur des restaurations dans nos cœurs et que au travers de ces restaurations, eh bien, nos murs s'élargissent, nos endroits intérieurs s'élargissent, et que vraiment, Seigneur, tu puisses encore prendre plus de place encore dans nos vies, et que toute la louange, la gloire, l'honneur, Seigneur, te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Merci.
Voilà, on va partager ensemble le pain et le vin. Est-ce que je peux demander à Hervé et Jeannot, je les prends un petit peu, à se préparer pour partager. J'aimerais partager avec vous ce texte de la première épître de Jean, au chapitre